Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Bonjour professeur Sadek Belloussif.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous, chef du service anesthésie-réanimation de l'hôpital Avicenne de Bobigny. D'abord, quelle est la situation chez vous ?
La situation est celle d'une veillée d'armes. On commence à avoir cette nuit les premiers patients et nous sommes prêts. J'ai envie de dire que d'abord on a commencé par une anticipation à l'assistance publique hôpitaux de Paris, mais comme partout en France, ça fait 15 jours qu'on se prépare, qu'on a des conférences téléphoniques, des réunions de cellules de crise chaque jour. Et le but du jeu, c'est de pouvoir soigner le maximum de patients. Et dans mon hôpital, comme d'autres à l'assistance publique, on a quasiment doublé le nombre de de réanimation pour pouvoir offrir des places et des ventilateurs à tous ceux qui en auraient besoin.
Mais les malades qui doivent subir une ventilation sont plus nombreux, arrivent plus nombreux chaque jour ?
Absolument, absolument. C'est la suite de ce que Simon Cauchemez vous a expliqué. J'aime bien cette métaphore de dire qu'il faut prendre la sévérité comme une pyramide. Et le but de ce qui est fait maintenant, le but du plan, c'est vraiment de pouvoir soigner tout le monde. Là, on voit que chacun dans son coin, chacun fait un travail remarquable. Eux, au comité scientifique, ils ont un travail de transparence, d'ouverture, d'explication et de transparence, de partage. Nous, on a la même chose à l'hôpital. On a une mobilisation de la part de tous qui est absolument exceptionnelle et qui est, je dois le dire, vraiment émouvante. Les administratifs, les infirmières, les médecins, des médecins dont ça n'est pas le métier d'être réanimateur sont là, se proposent, font. Les étudiants en médecine aussi, c'est une vraie mobilisation.
Ouais, vous voyez arriver en tout cas la vague pour les jours à venir. Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que la peur n'évite pas le danger, en fait. L'idée, c'est de comprendre, c'est de faire face, c'est de voir avec les différentes modélisations et les différents éléments. On passe aussi beaucoup de temps sur la partie psychologique pour expliquer et pour s'entraider chacun, parce qu'il faut communiquer au maximum et finalement partager le malheur, partager la peine, et cet élément-là permet finalement de se sentir chacun plus fort, parce qu'on sait que je compte sur l'autre comme l'autre compte sur moi.
Alors que se passera-t-il en cas de saturation ? Vous avez élaborer avec d'autres médecins des recommandations au nom de l'Agence de santé d'Île-de-France s'il y a à faire des choix, si les lits de réanimation viennent à manquer, ou vous justifiez notamment une éventuelle non-admission en soins critiques qui relèverait, je vous cite, d'une obstination déraisonnable. Que voulez-vous dire ?
Vous savez, l'obstination déraisonnable, c'est le cadre général de la loi Claeys-Leonetti. Et on doit dire que notre pays, en France, a été vraiment pionnier dans cette compréhension. D'habitude, les éléments de discussion classique sur l'acharnement thérapeutique, l'euthanasie, la fin de vie, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre ? En fait, cette question, elle n'a pas de sens, parce qu'on ne peut pas être binairement pour l'euthanasie ou contre l'euthanasie, ou favorisé ou pas. L'idée, c'est de pouvoir offrir à chacun un soin qui est approprié à sa situation. Et plus que des recommandations, ce qu'on a voulu faire, c'est des pistes de réflexion et de propositions pour aider chacun à comprendre. Parce qu'on est dans un domaine où on a coutume de dire que l'éthique, c'est le passage de l'implicite à l'explicite. Ce qu'on voulait, c'est offrir un outil documenté, objectif et explicite de comment se prend cette décision. Et c'est aussi un outil de communication pour les médecins réanimateurs qui ont l'habitude de ces dilemmes, bien sûr, mais aussi pour les médecins en amont et au-delà, les patients, les proches, les équipes soignantes, la famille, la société. Parce qu'on est tous dans le même bateau et on doit tous comprendre comment cette partie se fait. Et j'ai envie de dire que le point d'orgue, c'est qu'à chaque fois, il faut à la fois penser global en termes de population, comment maximiser le nombre de vies sauver, mais aussi de manière individuelle pour chaque personne, pour chaque patient, parce qu'une vie vaut une vie. Et donc on est dans une décision personnalisée pour chaque individu, pour chaque personne. Et
donc, on entend dire que le tri des malades, le tri entre les malades, c'est un fardeau quotidien des réanimateurs, mais là vous vous attendez à une situation exceptionnelle et à des choix collectifs et individuels qui seront forcément très lourds ?
Oui, mais comme beaucoup de mes collègues animateurs, j'aime pas ce mot de tri entre malades. En fait, c'est on a une situation extraordinaire et donc il faut adopter et proposer une situation personnalisée pour chaque patient. Et grossièrement, ce qu'on a voulu faire, c'est expliquer d'abord les principes généraux d'une décision d'admission ou de non-admission en unité de soins critiques et après de voir en pratique comment ça se passe. Les principes, eh ben c'est que d'abord on décide pas tout seul, il y a une collégialité. La décision, on l'explore à plusieurs soignants. Il faut voir quels sont les respects des volontés, des valeurs du patient, et aussi quel est son état antérieur, quel est son degré de fragilité, quelle est sa comorbidité et autres. Et puis ensuite, quelle est sa gravité clinique actuelle, et puis comment est-ce qu'il a évolué dans les jours ou dans les heures précédentes face avec le traitement initial.
Vous parlez ce document, ce que vous voulez éviter, vous le dites, c'est écrit dans ce document, ce sont des thérapeutiques disproportionnées qui n'auraient d'autre but qu'un maintien artificiel et transitoire de la vie au prix de souffrances pour le patient et ses proches. Je vous cite.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'une fois qu'on a fait ce bilan initial qui analyse la situation, d'abord, comment est-ce que, en pratique, les décisions vont se faire? D'abord, on anticipe au maximum pour essayer de voir on anticipe ce recours aux soins critiques, justement, avec l'analyse de l'état du patient. On recueille tous les éléments pertinents à l'analyse. Et à ce moment-là, finalement, on va vers, il n'est pas nécessaire d'aller en réanimation, où il y a une non-admission en réanimation, d'abord parce que le patient le refuse, ou que la famille le refuse, et c'est un premier élément. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de signe de gravité, parce que le malade n'est pas assez grave pour que son état justifie de la réanimation, et alors avec des bons soins, de l'oxygène, avec une ventilation spontanée, sans recours à la machine, ça fait tout seul. Et ensuite, on arrive bien sûr l'opposé de ça, c'est que on va pas proposer d'admission en réanimation parce que le malade est trop grave, parce que ce serait ce qu'on appelle une obstination déraisonnable, qui est un mot que je préfère à acharnement thérapeutique. Qu'est-ce que c'est que l'obstination déraisonnable? Il est bon qu'un médecin soit obstiné quand il a un plan thérapeutique et un schéma clair, raisonné et raisonnable. Lorsque cette obstination devient déraisonnable, parce qu'on sait qu'il y a 99,999% de chances que ce patient ne puisse pas survivre à cette réanimation, dès lors, on se dit que non seulement cette admission en réanimation n'est pas indiquée, mais en plus, elle serait péjorative. Elle serait péjorative pour le patient en lui faisant souffrir des éléments difficiles, péjoratif pour la famille parce qu'elle va priver, voire donner de faux espoirs, et puis péjoratif par rapport à un autre patient qui aurait pu bénéficier d'un tel accompagnement spécialisé. Mais dans tous les cas, que le patient soit admis ou qu'il ne soit pas admis, dans tous les cas, les soins ne sont jamais interrompus. Ils s'intègrent dans l'accompagnement général que l'on doit à chaque patient et à ses proches.
Professeur Belloussif, qu'en est-il de votre stock de masques? Vous avez ce qu'il vous faut ou vous êtes en rationnement?
Non, nous avons ce qu'il nous faut. Effectivement, moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique de comprendre qu'ils ne seraient pas nécessaires pour le public, mais ils sont utiles pour les soignants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les masques sont utiles pour certains lorsqu'on va faire un geste invasif, lorsqu'on va faire une intubation orotrachéale, où on met en place le tube qui va connecter le patient au respirateur. Là, il faut que le soignant ait nécessairement un masque. Le masque, c'est pour certains, pour les soignants au premier chef, les barrières de protection, la distanciation sociale, ça c'est pour tous et c'est extrêmement efficace.
L'état d'esprit de votre personnel auprès de vous aujourd'hui?
Il est calme, résolu et déterminé. Il est calme, résolu et déterminé. Vous savez, c'est que quand je disais que l'on compte chacun les uns sur les autres, par exemple, on a mis en place le statut d'une infirmière scrutatrice qui va vérifier que lorsque l'infirmière met en place son masque, sa tenue de protection, etc., qu'elle ne fait pas d'erreur lors de l'habillage et lors du retrait de ses éléments de protection. On a une infirmière qui surveille, et en fait, surveiller, c'est veiller sur. Donc, il y a vraiment une entraide qui vraiment est extrêmement fait extrêmement plaisir à voir. C'est très émouvant. Nous sommes prêts.
Merci beaucoup, professeur Sadek Bellossif, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le chef du service anesthésie-réanimation de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Europe 1.